en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Yann Arthus Bertrand a été élu membre de la section de photographie le 31 mai 2006. Le 15 octobre 2008, il a été installé au sein de l'Académie des Beaux-Arts par Pierre Schoendorfer, membre de la section création artistique dans le cinéma et l'audiovisuel. Au cours de cette cérémonie sous la coupole de l'Institut de France, Pierre Schoendorfer a prononcé, selon l'usage, le discours de réception de Yann Arthus Bertrand qui, en réponse, s'est exprimé sur le sens de son engagement de photographe et de nouvel académicien. À l'issue de la cérémonie s'est déroulée la remise de l'épée de Yann Arthus Bertrand conçue par Philippe Stark. Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de cette séance d'installation sous la coupole.
La séance est ouverte. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, messieurs les députés, monsieur l'adjoint au maire représentant le maire de Paris, monsieur le maire de Précy-sur-Marne, monsieur le maire de Versailles, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les conseillers, messieurs les officiers généraux, monsieur le chancelier, chers confrères, mesdames, messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour l'installation de M. Yann Arthus Bertrand, élu membre de la section de photographie de notre Académie le 31 mai 2006, au fauteuil créé par le décret du 10 mai 2005. La parole est à notre confrère, M. Pierre Schoendorfer.
Mon cher Yann Arthus Bertrand, mon cher confrère, je vous remercie de m'avoir invité à vous recevoir, à vous installer, comme nous disons, dans votre fauteuil de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France. Sous cette prestigieuse coupole qui, et ça n'aura pas échappé à votre œil de photographe, est ronde à l'extérieur et ovale à l'intérieur. C'est un honneur pour moi et une joie. C'est impressionnant aussi. Il y a là la solennité d'un rituel pluriséculaire, immuable. Cela est juste. Après tout, vous êtes un immortel maintenant. Je me dois de faire votre éloge, de compter votre vie. Il y aura de la gravité, bien sûr, mais connaissant votre cœur, autant que je le sache, je voudrais qu'il y ait de la légèreté et surtout de la joie. Car vous nous donnez, à nous tous ici et à la multitude, la joie. Je voudrais parler du courage et de l'espérance. Ces deux vertus sont sœurs, laquelle est l'aînée, je ne sais. Peut-être sont-elles jumelles. Comme on relève des empreintes sur une piste dans la jungle, il me faut remonter loin en amont pour retrouver votre trace jusqu'à sa source. La source profonde, Arthus Bertrand, évidemment. Cette vénérable institution familiale, géré avec une rigueur qu'on pourrait qualifier de janséniste, vieille de plus de deux siècles, qui semble faire partie intégrante de la place Saint-Germain-des-Prés, des artistes, des orfèvres, des bijoutiers, des joailliers, des fabricants de médailles et de décorations. Vous êtes né avec une cuillère en or, non, en argent dans la bouche. Cela oblige. Si je porte aujourd'hui ces deux rangées de décorations, ce qui m'arrive rarement, ce n'est pas par vanité, pour me hausser du col, c'est pour rendre hommage à vos ancêtres, à votre père. Il y a là l'ordre du parasol blanc et du million d'éléphants, du mérite des Sipoksho, de l'Anusara du Cambodge et de l'Issa Malawit, des noms exotiques qui font rêver. Des hochets, bien sûr, comme disait Napoléon. Des hochets qui me sont chers au cœur, si lourds pour moi de joyeux souvenirs de jeunesse, de fierté et de mort. Votre père, qui fut soldat, en sait autant que moi à ce sujet. Avec la guerre, je les avais perdues, détruites quand je fus prisonnier. Où les aurais-je retrouvées, si ce n'est chez vous? Mais revenons à nos moutons. Pardon, revenons à vous. C'est un cliché de dire aujourd'hui que tous les grands artistes ont conservé une âme d'enfant. Un cliché peut cacher une part de vérité. De votre petite enfance, je ne parlerai pas. Vous n'en parlez vous-même jamais. C'est votre trésor, votre bien caché, votre secret. C'est en elle que vous puisez votre courage et ces forces neuves toujours renouvelées dont vous avez besoin pour nourrir votre œuvre. J'ai toujours été fasciné par le cheminement, les tâtonnements, par quelle incertitude, par quel concours de circonstances, de hasards, de rencontres fortuites qui semblent dénuées de sens comme un puzzle dans le désordre. Comment un homme est amené à consacrer sa vie à sa vocation, à son art? Ce n'est pas écrit d'avance. Je ne crois pas au déterminisme. Le destin en gestation est encore noyé dans une sorte de brouillard. Aucun de ces cheminements n'est semblable. Ils sont uniques pour chacun. Nos confrères ici présents, tous des artistes, ne me démentiront pas. Vous avez refermé derrière vous la petite porte de l'enfance. Vous tournez le dos au milieu aisé de la bourgeoisie que vous avez vu naître. Vous jetez votre gourme, laissant vos parents un peu désemparés. Vous êtes un contestataire, un rebelle sans cause. Nous sommes à la fin des années 60. Un regard clair, presque trop intense. Une réserve, des silences qui vous donnent l'air farouche. Et puis soudain, un flot de paroles qui déballe comme avec la force d'un torrent. Mais 1968 ne vous comble pas, ne vous épate pas. Vous prenez comme elles viennent la bonne et la mauvaise fortune, les plaies et les bosses. Vous errez dans Paris, vous butinez comme un papillon au vol erratique, incertain. Jeune homme au physique d'acteur de cinéma, vous devenez même acteur, jeune premier, et vous serrez dans vos bras Michel Morgan, le temps d'une scène. Heureux mortel. Non, excusez-moi, heureux immortel. Levez-vous vite, orage, alizé, désiré, qui devait emporter Yann. En attendant, vous tuez le temps avec une élégance, une désinvolture aristocratique. Aristocratique, le mot est juste. Il vous va parfaitement. On marche, et le temps marche aussi. Jusqu'au jour où l'on découvre devant soi une ligne d'ombre qui vous avertit qu'il va falloir, à son tour, laisser derrière soi la contrée de son adolescence. C'est mon maître, Joseph Conrad, qui nous enseigne cela. La ligne d'ombre. Il est maintenant grand temps pour vous de faire ce premier pas qui est le début d'un long voyage, comme disent les Chinois, à chausser vos semelles de vent et porter votre regard bleu sur les 5 continents et sur les 7 mers, pour rendre le mieux possible justice à l'univers visible, pour découvrir dans ses formes, dans ses couleurs, dans sa lumière et ses ombres, dans les aspects de sa matière, dans les faits mêmes de la vie, ce qui est fondamental, ce qui est durable et essentiel. Une formule me semble bien exprimer votre état d'esprit à cet instant, et jusqu'à aujourd'hui, et demain. Ce que je ne veux pas, je sais. Ce que je veux, je cherche. Je ne cherche pas, je trouve. aurait, paraît-il, dit Picasso. Vous, vous cherchez et vous trouvez. Vous cherchez encore et vous trouvez encore. Vous cherchez toujours et toujours vous trouvez. Par votre constance, votre courage à ne vous laisser jamais détourner ni distraire de votre but, une fois ce but bien défini dans votre esprit. C'est une dame qui va vous prendre par la main pour ce premier pas au-delà de la ligne d'ombre. Votre épouse, Anne. Elle est propriétaire du domaine de chasse de Saint-Augustin dans l'Allier. Vous avez l'idée de créer une réserve animalière. Un zoo suivra. La nature, les animaux, voilà, c'est parti. Une deuxième naissance. Joyeusement, courageusement, sans plus renâcler, vous vous engagez sur une piste vierge. Vous ne savez pas où elle va vous mener, Dieu merci. C'est ça qui est magnifique. Vous me faites penser à un romancier qui, ayant laborieusement rempli sa première page blanche, se demande « Comment vais-je pouvoir arriver à mes fins ?» Vous marchez, un pas, un autre pas, et un autre encore et encore. Le visage enflammé, le vent sifflant dans ma chevelure, ne sentant ni pluie, ni frimas, enchanté, tourmenté et comme possédé par le démon de mon cœur, dit René, vicomte de Chateaubriand. C'était un romantique. Vous aussi êtes romantique. Mais vous êtes de surcroît un organisateur, un entrepreneur, un patron. Vous gérez au mieux votre entreprise. La rigueur Artus Bertrand, le vieil héritage familial. Vous n'êtes toujours pas photographe. Patience, j'y viens. Je suis bien forcé, puisque vous êtes assis là, dans votre fauteuil de photographe. 10 ans. Vous passez 10 ans dans votre réserve de Saint-Augustin. Et puis, vous êtes insatisfait. Vous aspirez à... Il vous faut... Oh, que le vent se lève. Vous avez 33 ans, l'âge du Christ, de la résurrection. Vous larguez tout. Vous partez avec Anne et les enfants pour l'Afrique, pour le Kenya, pour les mythiques grands espaces du Maasai Mara. Vous aimez la nature, les bêtes. Vous commencez à les connaître, même les bêtes sauvages, prisonnières de votre zoo. Vous voulez les voir vivre libres, sauvages dans leur territoire sauvage. Vous entrez avec ravissement dans le monde que vous espériez. Vous vous improvisez guide pour Safari Photo, promenant des touristes en mal de sensation. Il faut bien vivre. Naturellement, vous vous mettez à la photo, mais avec le sérieux, la rigueur qui vous caractérise. Vous avez le pressentiment que la photographie est un des moyens d'entrer dans le secret des choses. Le secret des choses. Nos confrères de l'Académie des sciences en savent plus. Ils nous disent que notre monde visible n'est qu'illusion, chimère, que ce solide mur, que cette coupole de pierre ne sont que vide et agitation incohérente de particules infinitésimales qui peuvent être simultanément corpuscules et ondes. La vérité, dans l'univers quantique, il n'y a plus de vérité, juste des probabilités. Vertigineux. Mais vous êtes pragmatique, les deux pieds solidement plantés sur notre terre. Vous êtes comme saint Thomas, vous ne croyez qu'à ce que vous pouvez voir et toucher. Que nos yeux soient des instruments incomplets, une lyre où il manque des cordes, comme disait Chateaubriand en parlant du cœur humain. Qu'importe. Ce qu'il nous laisse entrevoir de la splendeur de la création vous comble, vous enchante, vous émerveille. Peut-être que votre regard bleu est une lyre où il manque moins de cordes qu'à nous autres, comme à des mortels. Qui sait ? Saint Thomas, vous allez voir et toucher des gorilles, des éléphants, des lions. Vous les photographiez en plein élan. « Arrête-toi, tu es si beau !» aurait dit le Faust de Goethe, parlant de cet instant magique qui n'est jamais qu'une fugitive apparition, aussitôt vue qu'évanouie, et que votre photo nous conserve pour l'éternité. Vous passez votre brevet de pilote de montgolfière pour mieux vous approcher et surprendre silencieusement vos proies. Vous êtes fasciné par les lions, comme le fut Joseph Kessel en son temps. Ah, Kessel, un homme selon votre cœur, vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes vertus. La fidélité en amitié, une insatiable curiosité, une écoute attentive des autres, un amour violent de la vie. Et bien sûr, le courage et l'espérance. Sans doute ne partagez-vous pas son goût immodéré pour les nuits de prince à la russe, la musique cigale endiablée et sa capacité à croquer, à manger des verres de vodka, en cristal de préférence, ou à les briser sur son crâne pour en réclamer d'autres. Personne n'est parfait et vous êtes un sage. Jeune Mowgli du Livre de la Jungle, vous restez 3 ans au Kenya, en Afrique, en la bonne compagnie des zèbres, des girafes, des rhinocéros, des hippopotames, des crocodiles, des innombrables gnous, et toujours des lions. À bord de votre montgolfière, baladant vos riches touristes, vous rêvez d'être un oiseau. Quel enfant n'a pas rêvé d'être oiseau en regardant le vol des oies sauvages en partance pour des régions inconnues, d'être un petit Nils Holgersson sur les ailes d'Aka de Klepnekaï. Quand Jacques Perrin préparait son film « Le peuple migrateur », il m'a embarqué un jour sur un de ses ULM et j'ai volé au milieu des oies gris cendrées de Sibérie. J'aurais pu les toucher. J'ai été Nils Holgersson. Vous rêviez d'être oiseau, vous l'êtes devenu, vous l'êtes resté. Dans le parc de votre résidence aujourd'hui, vous avez construit une petite maison dans un chêne tricentenaire, comme un nid d'oiseau pour vos 3 petits qui sont devenus grands. Une maison dans les arbres, un autre rêve d'enfant. Je l'ai déjà dit, vous avez gardé une âme d'enfant. Je vais être obligé d'être oiseau, moi aussi, pour survoler votre vie. Elle est trop riche et le temps qui m'est imparti trop court. Je ne peux que renvoyer succinctement un écho de votre destinée. D'abord, quelques généralités en vrac. Quand on rencontre un homme de qualité, on dit judicieusement cherchez la femme. Dans votre cas, elle est toute trouvée, cette âne. Sans elle, vous ne seriez pas tout à fait ce que vous êtes. Vous êtes un père de famille et vos 3 fils grandissent et fleurissent à vos côtés. Homme pressé, vous découvrez la valeur du temps. Vous pouvez passer des heures immobiles, en embuscade, tapis dans une Land Rover ou perché sur un arbre pour obtenir ce que vous cherchez. Vous maîtrisez le temps, toujours pressé pour le trivial, d'une patience infinie pour approcher l'essentiel. Vous êtes un cocktail rare, parfaitement équilibré, de raison et d'émotion. Nul n'interfère sur l'autre. Vous êtes un scientifique, disons, et un artiste. Vous n'êtes pas d'un caractère facile. Vous êtes déterminé, emporté, intransigeant, volontariste, perfectionniste, endurant, exigeant. Vous avez envie de me dire « N'en jetez plus, la cour est pleine ». Non, je déballe tout pour ne plus y revenir. Vous êtes juste, vous avez une équipe de collaborateurs fidèles et vous leur êtes fidèles, comme dans un pack de rugby, l'amitié. Vous êtes un méthodique instinctif, un matérialiste insatisfait, en quête d'une transcendance. Vous avez horreur de la violence gratuite, de la haine, et vous aimez avec violence. Vous rentrez à Paris après 3 ans d'Afrique. Vous publiez votre premier livre, Les Lions, chez Hervé de la Martinière, un éditeur qui deviendra votre ami. puis un second livre sur les guerriers Maasai. C'est Anne qui rédige les textes. Vous êtes reconnu comme un photographe majeur, le plus grand sans doute de votre génération. Vous êtes à la mode, vous touchez à tout sauf à la publicité. Paris, Dakar, tournoi de tennis de Roland-Garros, Tour de France, Venise, la Papouasie, la Mongolie, la Cordillère des Andes, etc. Une boulimie joyeuse, comme une légère ivresse. Vous semblez vous disperser, mais vous laissez chaque fois votre marque indélébile, ce qu'on appelle le style, la construction d'une œuvre. Vous avez le don d'ubiquité. Vous êtes là et ailleurs en même temps, comme les atomes de l'univers quantique. Sur un front de bâche tendue, comme Nadar, il y a plus d'un siècle et demi, vous photographiez les animaux domestiques avec leurs éleveurs, les paysans, à chaque salon de l'agriculture. Très attentif à la rédaction des légendes qui accompagnent la photo, à juste titre. On regarde la photo, on lit la légende, on regarde à nouveau la photo et on voit ce qu'on n'avait pas perçu à la première vision. Vous publiez le livre « Les bestiaux » qui nous fait ressentir les nobles rapports des hommes et des bêtes. Yann, il est maintenant temps de déployer ton vol, d'être l'oiseau que nous attendons. Vous envisagez un projet longuement mûri, complètement fou, démesuré, impossible. La terre vue du ciel, l'état des lieux photographiques de la terre, de notre terre, la planète bleue, comme l'ont vu les astronautes. Yann Arthus Bertrand réussit l'impossible. C'est un chef-d'œuvre, une découverte et une joie pour l'œil et une leçon. Une leçon qui n'est pas assénée à coups de slogans. Une leçon qui est suggérée avec la force de persuasion de l'évidence, de la vérité. Fils, voilà ta terre, notre mère, glorieuse et fragile. Ô fils, vous l'avez rendue malade, ne l'achevez pas. Yann Arthus Bertrand n'est pas le prince Michkin, l'idiot de Dostoïevski. Il ne croit pas que la beauté sauvera le monde. Il sait que demain, la laideur, la pollution humaine, le gaspillage écologique, l'indifférence, l'inconséquence, tous ces multiples cancers vont tuer notre terre. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Demain, oh demain, c'est la grande chose. De quoi demain sera-t-il fait? L'homme, aujourd'hui, sème la cause. Demain, Dieu fait mûrir les faits, disait déjà Victor Hugo. En regardant, en lisant la terre vue du ciel, je suis dans l'enchantement, emporté par le mystère de la beauté de la création. Et puis, insidieusement, une sourde angoisse m'étreint. Ce livre est un testament, mais nul demain ne pourra en prendre connaissance, parce que l'humanité sera morte avec la terre. Je suis un pessimiste. Je l'étais. Yann Arthus Bertrand ne se veut pas pessimiste. Il a l'espérance chevillée au corps, la petite bougie allumée dans la nuit. Il nous dit que rien n'est perdu, qu'on peut infléchir le destin, qu'on peut sauver notre mère. Nous en avons encore le pouvoir. Il faut le vouloir. Il y croit, et je veux y croire aussi. Il a ébranlé mon pessimisme, le mien, le vôtre. J'aurais tant de choses à vous dire encore. Votre film, 6 milliards d'autres, cette vieille femme marquée par la vie, d'une ethnie du bout du monde, à qui vous demandez « Pouvez-vous pardonner ?» et qui répond sans hésiter « Oui, sinon qui me pardonnera ?» Tant de choses encore. Votre œuvre me met en joie, me donne envie de rire, d'éclater d'un rire de pure joie. Merci. Bienvenue à bord. Je parle comme un marin. Bienvenue dans notre compagnie, Monsieur Artus Bertrand, mon cher confrère et ami.
Madame et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les députés, Monsieur l'adjoint au maire représentant le maire de Paris, Monsieur le maire de Précy-sur-Marne, Monsieur le maire de Versailles et surtout Monsieur le maire d'Eménul, il n'est pas là, mais je sais qu'il est là, ça c'est important. Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les conseillers, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le chancelier, Monsieur le secrétaire perpétuel, chers confrères, mais surtout très chers amis. J'avais envie de vous parler de beauté, et rien ne décrit mieux la beauté que si on la laisse parler d'elle-même. Ce moment de rentrer dans la fosse aux lions. Pardonnez-moi cette comparaison. En me présentant chez vous, j'ai l'impression d'être soumis à un rite d'initiation tribal, comme je l'ai souvent photographié, qui font passer les jeunes gens à l'âge adulte. Et quelquefois, c'est très douloureux. J'ai même le costume de cérémonie. Je voulais vous remercier, mon ami Pierre Schoenderfer. C'est émouvant qu'un héros parle de moi si gentiment, que pour moi, Pierre est un héros. On connaît tous son histoire. Sur son visage se lit sa droiture et dans son regard, une joyeuse humanité. Quand il était fait prisonnier à Bien Bien Phu, où une personne sur quatre seulement est revenue des camps de prisonniers, on demandait à sa mère est-ce qu'elle était inquiète. Et sa mère disait non, pas du tout. Pierre a trop de joie en lui pour mourir. Regardez, Pierre, il faut sourire un peu. Eh bien, elle avait raison. Mais pour revenir à ce qu'il a dit de moi, ben c'est vrai, je suis un garçon formidable. Il n'y a que moi qui le savais. Alors merci de l'avoir dit aux autres. J'étais le seul à le savoir. Pour être plus sérieux, entrer à l'Académie des Beaux-Arts, moi qui ne me suis jamais considéré comme un artiste. Aujourd'hui, j'ai cette chance inouïe de partager cette maison avec des colocataires exceptionnels. Quand m'a proposé ma candidature, j'ai eu un petit moment d'hésitation. J'étais entièrement d'accord pour me faire immortaliser, mais pas question pour me faire fossiliser. Au contraire, vous m'offrez l'opportunité d'un souffle nouveau pour créer ensemble. Dans reconnaissance, il y a renaissance. Je savais de l'Académie ce que tout le monde sait, c'est-à-dire peu de choses. Et c'est dommage, parce que l'Académie fait une quantité de choses remarquables, pas assez connues et que j'aimerais citer ici. Alors, les académiciens le savent, mais pas les autres. Nous aidons près de 200 artistes par an. 1 million d'euros est décerné chaque année sous forme de prix, de bourses et de concours. 1,5 million est consacré aux artistes dans le besoin. Beaucoup d'artistes sont financés en résidence, sans parler de tous les musées et les biens que vous gérez. L'Académie, en deux mots, est moins conformiste qu'on le dit. Preuve en est que vous m'aviez choisi, alors que vous saviez très bien en m'élisant que je n'étais pas du tout d'accord, mais pas du tout d'accord, avec le livre blanc sur les éoliennes en France, vous l'avez bien compris. En tout état de cause, je suis convaincu que l'Académie des Beaux-Arts n'est rien d'autre ce que nous en faisons, et nous sommes tous d'accord pour penser que nous pouvons en faire encore plus. Un signe d'ouverture très fort, vous accueillez ici un deuxième photographe. L'an dernier, à la même époque, à cette place, soumis à ce même rite d'initiation, Lucien Clerc se trouvait confronté à la même difficulté que moi. Devoir se lancer sans filet, c'est-à-dire sans personnage à qui lancer des fleurs et tresser des couronnes. Profitant d'être le premier académicien de sa discipline, Lucien Clerc a parcouru avec brio, et là il m'a épaté, 25 siècles de photographie de Aristote à Salgado. Formidable. Mais moi, alors, il me reste quoi ? Parce que grâce à la tradition de l'éloge, la plupart de mes confrères ont tout loisir de parler d'eux-mêmes sous couvert d'une référence au modèle impérissable de leurs prédécesseurs. Mais moi, je n'ai pas cette chance. Je ne peux pas me reposer sur aucun illustre fauteuil qui aurait servi de modèle. Alors j'ai choisi de vous parler de mes modèles. Mes modèles sans lesquels je ne serais pas ici. Les modèles au sens le plus littéral, au sens où les peintres, les sculpteurs et les photographes l'entendent. Mais aussi et surtout, les modèles auxquels on se réfère, les modèles de vie. Je voudrais leur rendre hommage aujourd'hui. Alors mon premier modèle, je me souviens, c'était une superbe blonde. Je vous l'avoue tout net, je ne connaissais même pas son prénom. Les premières prises de vue se sont avérées captivantes. J'ai même resté la nuit avec elle. Du coup, on m'a présenté à toute sa famille. Et nous avons vécu 3 ans ensemble. C'était en Afrique, dans les années 80. Et vous l'aurez deviné, mon premier modèle était une lionne. Je l'ai suivie tous les jours, pendant 3 ans avec ma femme, ma douce Anne, pour une étude sur le comportement des lions. Ils m'ont appris la patience, à moi qui en avais si peu. Pendant ces années, nous avons refait 100 fois, 1000 fois la même chose. Nous les avons entendus pendant des heures. Nous les avons suivis à chacune de leurs apparitions. Et plus ça se répétait, moins nous nous lassions et plus nous apprenions. Je dois au lion cette conscience aiguë de faire partie du même monde qu'eux. Dans ces plaines du Kenya, j'ai pris toute la mesure du sens qui unit le vivant, les vivants. J'ai compris que moi aussi, je faisais partie de cette nature, que toute cette vie, animal et végétal, c'était ma famille. Ces réserves sont des paradis pour les photographes et les chercheurs animaliers parce que l'homme, les animaux n'ont pas peur de l'homme. L'homme n'est plus un prédateur. Et ce matin, en courant dans la forêt de Rambouillet, comme tous les matins, je voyais une biche et son faon effrayés qui couraient devant moi. Et je me suis souvenu de ma rencontre avec les gorilles de Diane Fossé au Rwanda. Diane était malade et elle ne pouvait pas venir avec moi voir les grands singes. Alors elle m'a dit « Tu vas y aller tout seul, mais attention, quand tu vois les gorilles, tu baisses les yeux, tu baisses la tête, tu n'es pas arrogant. » Alors j'étais parti avec mon appareil photo, je me suis installé sur une petite plaine, il y avait un groupe à 50 mètres, le groupe est arrivé à côté de moi, c'est très inquiet. Le mâle m'a fait une grosse parade d'intimidation avec son poil hérissé, c'est « bam, bam, bam » comme ça. Ça pèse 200 kilos, j'étais tout petit, assis. J'étais pas du tout arrogant, je baissais la tête. Il s'est assis à côté de moi, les femelles avec les petits étaient autour de moi, et il s'est endormi en posant sa tête sur mon pied. Et là, j'ai pleuré. J'ai pleuré d'émotion. Sa confiance était un véritable cadeau et cette intimité un vrai privilège. J'ai aussi compris avec les lions que la photographie donnait une information qu'on ne peut pas donner par l'écriture. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je devenais photographe. Ces lions ont été mes professeurs de photo. Je ne suis pas très très bon photographe toujours, on me le reproche, vous comprenez pourquoi. Ils ont construit mon regard. Je leur dois beaucoup. Et je n'ai pas peur de dire qu'une lionne qui chasse dans les herbes au soleil couchant, les oreilles repliées sur son crâne, tout son corps ondulant, tendu vers une proie qu'elle est en train de chercher, constitue un pur moment de beauté naturelle, sans le moindre artifice. Dernièrement, je demandais à un garde malgache d'une réserve à Madagascar, mais pourquoi il est si important de sauver les lémuriens Indri? Et il m'a répondu spontanément, parce qu'il est beau et que l'homme a besoin de beauté pour vivre. Il a tellement raison. Est-ce que mon métier n'est pas simplement de montrer cette beauté? Il y a quelque chose de désespérant là-dedans. J'ai toujours l'impression que mes photos sont deçà de ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et c'est sans doute cette insatisfaction permanente qui fait qu'on devient un vrai photographe. Vraiment un photographe, pardon. Mon deuxième modèle a été la Terre. À cet égard, la conférence de Rio en 92 a été un déclic. J'ai décidé de faire un état des lieux de la Terre. Faire le portrait de la Terre, c'est comme faire le portrait d'un visage aimé. Pour réussir un portrait, on laisse parler le visage. Avec la Terre, c'est pareil. J'ai une vision de la Terre, évidemment, mais j'essaye de laisser la Terre parler d'elle-même. C'est un langage universel. Ce que dit la Terre, ce que dit sa beauté, tout le monde le comprend. Et dans les expos qu'on fait à l'extérieur, de Kaboul à Chicago, c'est évident. La beauté de la Terre, tout le monde la voit. On est aux antipodes des canons culturels de la beauté. La Terre nous fournit un modèle d'une autre manière. C'est un modèle de croissance. La vie est un succès qui dure depuis 4 milliards d'années. Il n'y a pas de plus bel exemple de développement durable. En deux mots, la Terre n'est pas seulement belle, elle est intelligente. La fréquentation de la Terre m'a complètement transformé grâce à sa beauté, grâce à son intelligence. D'abord, sa beauté m'imprègne, je ne peux pas le dire autrement. C'est quelque chose comme une certitude. Dès que je m'envole avec mes appareils photo, je sais que je vais faire beau. Parce que le modèle est beau et parce que je le veux comme tel. La beauté de la Terre m'appelle et je viens. L'intelligence de la Terre, elle ne m'a pas transformé, elle a révolutionné ma vision des choses. En la fréquentant de près, j'ai compris l'équilibre extrêmement subtil, ou plutôt le mécanisme fragile dont nous tous, nous sommes ici le résultat. Mon troisième modèle a surgi naturellement comme une évidence. Un jour, je suis tombé en panne avec mon hélicoptère dans un petit village au Mali. Et pendant 24 heures, je suis resté avec une famille tout seul. Il y avait là un Africain avec ses trois femmes, tous leurs enfants, et ils m'ont tout donné. Ils ont tué une chèvre pour moi, ils m'ont expliqué leur vie, ils m'ont montré leur trésor, un petit Coran, un petit bijou dans une caisse. Puis on a parlé beaucoup. Moi, j'ai dessiné ma maison, dessiné ce que je faisais. Puis au bout de 24 heures, en parlant avec lui, je me suis rendu compte, et il me l'a dit très clairement, que sa seule ambition dans sa vie, c'est de nourrir ses enfants. Bien sûr, je savais ces choses, mais même si j'avais fait 1000 photos de cet homme, aucune d'entre elles ne saurait restituer les mots et la manière dont il me les avait dit. Ça m'a rendu plus intelligent, j'en avais bien besoin. Quelque chose en moi s'est alors décroché. En survolant la Terre de haut, j'avais pris le recul nécessaire, mais en même temps, je ratais quelque chose. La distance empêche la compassion. La compassion, c'est éprouver avec. Il m'a paru tout à coup évident que je devais maintenant rencontrer les gens qui étaient sous mes photos pour éprouver avec eux. Cette troisième étape, ce troisième modèle s'inscrit tout naturellement dans mon parcours. Il y a une fable tibétaine que j'adore, qui résume bien ce projet. J'ai vu au loin un arbre qui bougeait. Je me suis approché, c'était un animal. Encore plus près, c'était un homme. Et de tout près, j'ai vu que c'était mon frère. C'est ainsi que j'ai lancé le projet de 6 milliards d'autres. L'idée de départ est simple. Nous avons demandé à des milliers de gens, jeunes et vieux, dans des pays en paix, dans des pays en guerre, dans les pays riches et dans les pays pauvres, de nous parler d'amour, de famille, de leur travail, d'argent, de l'existence. L'étranger, c'est cet ami que je ne connais pas encore. 6 milliards d'autres est devenu la suite naturelle de la terre vue du ciel. J'ai lancé le projet, mais je le confie à d'autres, une équipe magnifique. C'est aujourd'hui 5000 interviews réalisées dans le monde entier. Et ce travail illustre bien la dimension désormais collective de ce que je fais aujourd'hui. Fini l'image du photographe solitaire, c'est vous dire tout ce que je dois à ceux qui m'entourent et qui me font l'honneur de travailler avec moi. Oui, l'honneur. Ce n'est pas à vous que je l'apprendrai. On prétend que les artistes sont forcément, à un moment ou à l'autre, amoureux de leur modèle. Ben moi, je suis comme les autres. Je suis amoureux. J'aime passionnément les animaux, j'aime passionnément la terre et j'aime passionnément les autres. Assez curieusement, on prétend que l'artiste se libère, se débarrasse même à un moment ou à un autre de son modèle. Un peu comme un matériau qu'on jetterait après usage. Pour ma part, de manière constante, obstinée, je vogue totalement à contre-courant de cet objectif. Mes modèles ne me quittent pas, même quand ils ont quitté mon objectif. À 100 lieues de les chasser de mon atelier, je fais exactement le contraire. C'est moi qui reste attaché à leurs pas. J'ai pris à la lettre, fait et cause, pour mes modèles. Est-ce que mon militantisme me dévalorise comme artiste? Aux yeux de quelques-uns d'entre vous, c'est probable. Mais il est trop tard pour me changer. Si je devais choisir entre l'esthétisme et l'humanisme, vous savez dans quel camp je suis. Ça ne vous a pas empêché de me choisir, de m'élire. Merci. En m'amenant à l'humanisme, la photographie m'a ouvert le monde des associations, des organismes non gouvernementaux, des ONG. Je voudrais leur rendre hommage aujourd'hui, puisqu'elles sont largement et dignement représentées ici. L'engagement rend heureux. Je l'ai vérifié tant de fois. Je me souviens, il y a très longtemps, dans une petite ville à Ahmedabad, en Inde, où j'avais été voir une léproserie. On m'avait dit qu'il y a une sœur française qui est là-bas, va la voir. C'était une sœur très âgée, elle avait 80 ans. Et quand je suis arrivé, elle était en train d'aider à mourir un lépreux. Il n'avait plus de nez, il n'avait plus d'oreilles. Elle le berçait dans ses bras, elle lui parlait en l'embrassant. Elle resplendissait. Elle l'accompagnait et moi je pleurais. Une expérience de vie, tous ces gens d'ONG que j'ai vus m'ont transformé complètement. Je vais vous en présenter quelques-unes qui sont là aujourd'hui. Dans notre pays, il y a 13 millions de gens qui sont des bénévoles. Eh bien, Aviation sans frontières, qui emmène 7000 colis par an, et 1000 enfants malades qui sont acheminés en France pour être opérés, c'est un salarié et 60 bénévoles. Dans le monde, 12 millions d'enfants ont perdu leurs parents à cause du sida. L'association François-Xavier Bagnou, l'œuvre incomparable d'une mère, a aidé 822 000 orphelins du sida. 985 millions de personnes vivent dans une précarité extrême, avec moins d'un dollar, $1 par jour. ADT Carmonde, refuser la misère et construire la paix. Je me souviens d'un bénévole d'ADT Carmonde qui, le soir, allait apprendre le roumain pour expliquer au petit Rome qui vivait dans son village qu'il ne fallait pas voler les fleurs du cimetière pour les vendre dans le métro. C'était pas bien, il ne pourrait pas rester. Il était bénévole. Presque 3 milliards de gens, parmi les plus pauvres, utilisent du bois pour faire la cuisine, presque la moitié de l'humanité. L'association Bolivia Inti, pour lutter contre la déforestation, fournit des fours solaires. Dans le monde, un enfant sur cinq ne va pas à l'école. Fondation Bettencourt, une fondation discrète à l'image de sa généreuse fondatrice. 100% des espèces de grands singes sont en voie de disparition. Fondation Jane Goodall. Pour moi, c'est mon héroïne. Je suis parti avec son livre sous le bras qui s'appelle Les chimpanzés. Moi, je rêvais d'approcher les animaux comme elle avait approché ses chimpanzés. C'est ce que j'ai fait avec les gorilles. Si chaque habitant de la Terre consommait autant qu'un Français, il faudrait trois planètes. Fondation Nicolas Hulot. Il a vraiment fait rentrer l'écologie dans la politique de notre pays. Plus d'un milliard d'hommes et de femmes n'ont pas accès à l'eau potable. Un milliard. France Liberté. Je veux saluer le travail de Daniel Mitterrand, sa jeunesse d'esprit au service de convictions fortes des droits de l'homme. Greenpeace, les premiers à avoir courageusement combattu la chasse à la baleine. Vous savez que les chiffres de la FAO nous disent en 2040, il n'y aura plus de poissons si on continue à pêcher comme ça. 2040, c'est quand même demain, plus de poissons dans la mer. Parce que j'aime bien Greenpeace, c'est que la mer française a coulé leurs bateaux. Je les ai vus l'autre jour à l'Elysée. C'était bien. 13 millions d'hectares de forêts naturelles sont détruits chaque année. 13 millions d'hectares. Instituto Terra, la fondation de Sebastião Salgado et de sa femme. Ils plantent des arbres dans la Mata Atlântica au Brésil. Les Nations Unies estiment qu'il y aura 200 millions de réfugiés climatiques en 2050. Ça fait beaucoup. Les Amis de la Terre, j'ai travaillé avec eux en Israël. Il y avait quelqu'un là-bas qui reliait les Palestiniens, les Jordaniens, les Israéliens pour essayer de sauver la mer morte qui baisse d'un mètre par an. Une espèce d'oiseau sur 8 est menacée d'extinction. La LPO, dirigée par mon ami Alain Bougrain-Dubourg. On se connaît depuis qu'on est tout petit. Je me souviens d'Alain allant dans les classes avec des aquariums, avec des serpents dedans. Il avait 18 ans, 19 ans, il sortait les vipères. Regardez, c'est pas du tout dangereux, regardez, c'est formidable. Il s'est fait piquer 4 fois, et 4 fois il a fait le sérum comme ça devant les enfants. Puis la 5e fois il a fait un coma, il a arrêté. Dans le monde, un enfant sur 20 meurt dès sa première année, près d'un million d'enfants. Mécénat, chirurgie cardiaque, 1300 enfants opérés par Francine Leca et son équipe. Elle vient d'assister avec émotion à soutenance de thèse de médecine d'une jeune malienne qu'elle avait opérée il y a 10 ans. L'espérance de vie moyenne de la naissance est de 66 ans dans le monde. Elle n'est que de 33 ans au Swaziland. 33 ans d'espérance de vie au Swaziland. Médecins du Monde, une organisation internationale qui soigne chaque année 167 millions de malades. Alors, je ne sais pas si 167 millions ou 1 million 67, mais c'est beaucoup. En France, 6 000 enfants sont atteints en France par la mucoviscidose. L'association Vaincre la mucoviscidose, c'est le courage des parents et surtout des enfants. Planète Finance, fondée par Jacques Attali, pour aider les gens qui veulent faire du microcrédit. C'est une invention formidable de ce siècle. Selon les scientifiques, nous sommes entrés dans la 6e grande crise d'extinction. Écoutez bien ça. Nous serions rentrés maintenant dans la 6e grande crise d'extinction du vivant sur la Terre. On a l'impression que ça impressionne personne. Moi, ça m'impressionne. Pro Natura, une ONG au Brésil qui travaille contre la perte de la biodiversité. 86 journalistes tués et 31 emprisonnés en 2007. Reporters sans frontières. La déforestation est responsable de 20% de gaz à effet de serre. La Fondation Yves Rocher s'est engagée à planter 5 millions d'arbres en 3 ans. 2 millions de personnes meurent chaque année d'une maladie transmise par une eau de mauvaise qualité. 2 millions de personnes. Solidarité, une fondation qui s'occupe d'aide en urgence, surtout des problèmes d'eau. Dans le monde, vous avez 1 milliard 350 millions d'exploitations agricoles. Il y a 1 milliard de gens qui travaillent à la main. Il y en a 300 millions qui travaillent avec un animal. Et il n'y en a que 30 qui travaillent avec un tracteur. Pierre Rabhi, Terre Humanisme, travaille sur les gens qui travaillent travaillent la terre d'une façon propre. 218 millions d'enfants travaillent dans le monde, et parmi ceux-ci, 126 millions subissent les pires formes d'exploitation. L'UNICEF, Organisation des Nations Unies. 30% des ressources vivantes de la planète ont disparu ces 30 dernières années. 30% des ressources de la planète ont disparu durant ces 30 dernières années. Le WWF, le symbole de la protection de la nature. Au début du siècle, on demandait à un ornithologue « Mais pourquoi il est si important de sauver les condors ?» Et il répondait « Pas tellement parce qu'on a besoin des condors, parce qu'on a besoin de développer des qualités humaines nécessaires pour les sauver. Et ce sont les mêmes qualités dont nous aurons besoin pour nous sauver nous-mêmes. » La Ligue de l'enseignement, une grande association française d'éducation populaire, qui est associée avec une petite association, la nôtre, Good Planet. C'est une nouvelle rencontre, on fait beaucoup de choses, mais en tout cas, une seule chose que je voudrais citer, cette année, nous avions invité 120 enfants de milieux défavorisés à Port-Cros. Et quand je les ai vus partir en pleurant, c'était bien. Des enfants qui n'avaient jamais vu la mer, jamais vu de poissons, qui arrivaient de banlieue. Bravo à ceux qui ont fait ça. Engagez-vous. On a besoin d'action aujourd'hui. Il est trop tard pour être pessimiste. Tous ces ONG ont pour moteur principal l'amour des autres, l'amour de la vie. Or, il y a une connivence directe entre l'amour et la beauté. Ceux qui aiment voient mieux. La beauté est réservée à ceux qui aiment. Or, les gens des ONG ont beaucoup d'amour, donnent beaucoup d'amour et savent mieux que personne ce que beauté du geste veut dire. C'est pourquoi j'ai tenu à les inviter ici, dans ce temple dédié à la beauté. Il me semble qu'ils ont ici leur place à part entière. Nous sommes tous des immortels, donc je vais vous immortaliser. Vous allez tous regarder en l'air. Regardez tous en l'air. Papa aussi, regarde en l'air. En l'air. Et on va faire une photo de vous. Regardez tous en l'air, s'il vous plaît. Tout le monde en l'air, regarde. Voilà. Il y a un immortel qui fait une photo. C'est pas Dieu. Vas-y. Regardez bien, envoyez de l'amour. C'est fait. Chers amis, c'est pour moi un jour très émouvant. La présence de chacun m'est très précieuse. Je vous remercie de m'avoir écouté, moins avec votre jugement qu'avec votre cœur. Vous avez bien compris que je voulais vous parler d'amour. Je vous aime. Merci.
Vous venez d'entendre la retransmission de la séance de réception de Yann Arthus-Bertrand qui s'est déroulée le 15 octobre 2008 sous la coupole de l'Institut de France. À la suite de cette cérémonie sous la coupole, la remise d'épée d'académicien de Yann Arthus-Bertrand s'est déroulée dans la cour de l'Institut. Conçue par Philippe Stark, l'épée lui fut remise par sa fille en l'absence de celui-ci. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de cette courte cérémonie.
Alors notre ami Philippe a pris un petit peu de retard, il va arriver en moto de Roissy, il doit atterrir, donc il va être un petit peu en retard, donc c'est sa ravissante fille, Ara, qui va parler.
Bonsoir, j'étais déjà émue de faire ça, de te parler à travers mon père, mais depuis ce que je viens d'entendre sous la coupole, ça va plus du tout. Donc, je ne suis pas là, pas moi, lui. Comme d'habitude, quand c'est rigolo, je suis ailleurs. D'ailleurs, en général, je suis ailleurs. Pardon. Quand un journaliste me demandait un mot sur Arthus, je répondais « c'est un aigle ». Il en a le physique, il en a l'élégance, il en a l'œil, il en a l'attitude, il en a l'altitude. Ça allait, j'étais content de moi. Puis un jour, l'aigle s'est posé sur des détritus, les nôtres, déçus. L'aigle a réfléchi, puis devant l'urgence, a déposé ses ailes et mis des bottes en caoutchouc. Il a pris un pic, et on peut le voir souvent au bord des routes et des plages, piquant des détritus et les remisant dans un sac poubelle. C'est humble pour un aigle. Quand il a eu besoin d'une épée, je lui ai fait son pic avec ses déchets divers. L'épée pour le guerrier, le vieux tube de dentifrice pour nous rappeler les urgences. Car si un jour, une hypothétique civilisation devient plus civilisée, cela aussi sera grâce à lui. Merci.
Il faut que je me remette l'épée,
ah oui.
Alors quand Philippe m'a dit, moi je voulais pas faire d'épée. Et Philippe m'a dit, je vais te la faire, j'ai une idée. On va trouver dans les poubelles de quoi faire ton épée. Bah, j'ai dit, du coup, vas-y. Alors, c'est une épée de marine, parce que je suis peintre de la marine, j'ai cette chance. Il y a écrit dessus « Amour ». Bon, je n'ai pas changé. Et puis voilà, c'est une épée magnifique. Merci, ma belle.